Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Bonjour à toutes et tous, on est très heureux de vous retrouver sur le plateau de Pleine Lucarne, d'autant que semaine après semaine, match après match, on revient avec le sourire, puisque Rennes n'en finit pas de gagner. 9 matchs sans défaite, 5 victoires consécutives en Ligue 1, une semaine assez incroyable qui se profile pour les joueurs de Julien Stéphan avec ce déplacement à Milan pour y affronter l'AC Milan devant, allez on va dire, 8 à 10 000 spectateurs rennais, de l'inédit dans l'histoire du club. On a beaucoup de choses donc à vous dire et on va vous les dire avec Christophe Penven de TVR. Bonjour Christophe.
Salut Vincent.
Pierre Lecomte de l'Académie qui porte son nom est également avec nous. Salut Pierre.
Salut Vincent.
Le retour du Havre de deux garçons qui nous font le plaisir d'être avec nous, à commencer par Frédéric Happe de l'AFP, l'agence France Presse. Salut Fred.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et Guillaume Lenné de West France, de retour aussi du Stade Océane. Salut Guillaume.
Salut Vincent.
Et on parlera aussi avec lui de cette interview exclusive d'Olivier Giroud, qui est publiée aujourd'hui dans votre journal. Mais juste auparavant, on va regarder un résumé de ce match qui avait lieu hier au Havre à 13h. C'est un beau stade, il y avait du monde et la première occasion est pour les Rennais avec Terrier qui part à la limite du hors-jeu mais qui va se faire contrer au moment de son tir dans la surface de réparation. La suite va être un peu moins agréable pour les Rennais avec cette tête sur le poteau de Théâtre qui dans un deuxième temps se reprend très bien. Regardez, il a un vrai bon réflexe pour dégager devant Lloris. Et puis il y a ce ballon dans le dos de la défense et notamment dans le dos de Théâtre sur lequel va intervenir Mandanda. C'est la première parade décisive du gardien rennais. On voit que la défense flotte un peu, mais les Rennais, qui sont un peu maladroits dans cette première mi-temps, ont quand même, par moment, quelques éclairs. Le centre de Guéladoué, difficilement repris par Kalimuendo. Derrière, eh bien, le ballon enroulé de Désiré Doué ne trouve pas la lucarne. On a l'impression que le tir est à côté, mais finalement, on y reviendra. C'est un bel arrêt de Mandanda. On voit encore Kalimuendo, son ballon est contré et va toucher le haut de la transversale de Desmas. Toujours 0-0. Les Rennais sont mieux en seconde période à l'image de cette action, malheureusement conclue par un centre. Mais alors on se demande pourquoi il fait un centre comme ça, Truffert. Il y avait mieux à faire, mais sans doute que Pierre Lecomte va nous expliquer pourquoi. Et là, Guéladoué, regardez le déplacement super ingénieux de Bourigeaud sur la remise de la tête de Terrier pour le but qui sera l'unique but du match. On n'avait pas beaucoup vu Bourigeaud avant ce match-là, mais regardez comment il va bouger Bourigeaud. Regardez que Bourigeaud. Hop, voilà, je contourne le joueur. Il y a une vraie complicité entre Bourigeaud et Terrier, ils se connaissent par cœur. Et puis alors la Salah dans ses œuvres, tête ratée, dans la foulée un deuxième centre, reprise ratée. C'est dommage, hein, c'était la balle du 2-0 et Rennes va beaucoup souffrir sur la fin de match. Il y aura quand même ce coup franc de Bourigeaud qui passe tout près. Et après, évidemment, il va falloir une nouvelle fois serrer les dents sur cette reprise de Joujou. Il n'a pas été un cadeau, en l'occurrence, pour les Rennais quand il est entré. Et cette tête quasiment à bout portant, bien arrêtée, avec calme, par le gardien rennais Mandanda. Rennes, finalement, s'impose 1-0. La joie de Bourigeaud, la joie des 1000 supporters qui avaient fait le déplacement. Imaginez 10 fois ça à San Siro et on en reparle. Et regardez le classement, on va y revenir plusieurs fois. Rennes est passé devant Marseille et Reims. Et donc Rennes, pour le moment, n'est pas européen. Le serait si une équipe du haut de tableau remportait la Coupe de France. Et voilà, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'on peut dire que potentiellement le Stade Rennais y est. Vous pensez, messieurs, que c'est le très bon coup du week-end ? Guillaume ?
Oui, c'est le bon coup du week-end avec Monaco aussi quand même, qui a gagné à Nice et qui se replace bien sur le podium. Ouais, c'est une très bonne opération qui conforte malgré tout une dynamique comptable qui est quand même exceptionnelle, il faut le dire. C'est rare quand même de voir une série comme ça. Alors, dans les championnats européens, bon, pour l'anecdote, Il y a seulement 4 équipes qui font ce parcours en championnat avec, en ayant gagné tous leurs matchs en 2024. Donc il y a Rennes, il y a Manchester City, il y a Arsenal et il y a l'Inter de Milan.
Voilà.
Bon, que bon, après, évidemment, il ne s'agit pas de comparer Rennes à ces équipes-là, mais cela dit, ça montre quand même que la dynamique, elle est exceptionnelle, quoi.
Est-ce que ça fait naître de nouveaux espoirs ?
Oui, sans doute, mais je pense que le club est assez mesuré là-dessus et a raison de l'être. Il sait qu'il mange son pain blanc maintenant et il sait que la question, c'est comment ça se passera à la première défaite ou au premier accro. Donc, c'est plus maintenant ça qui est attendu. Mais c'est bon à prendre, d'autant plus que les scénarios font qu'il n'y a pas d'enflammade possible parce que ce n'est pas des victoires non plus très larges.
C'est vrai, c'est vrai. Et on va revoir le classement, si vous voulez bien. Regardez les équipes qui sont devant Rennes. Parce que c'est vrai, on se doutait bien que Marseille et Reims, c'était un peu fluctuant. Mais maintenant, si on veut aller plus haut, on peut aller plus haut, Christophe Penven. Lens, vous voyez, Lens, Lille, Monaco, Nice, PSG, Brest, s'écrouler, enfin s'écrouler, ou en tout cas se faire rattraper.
Mais en fait, il n'y a pas une équipe devant Rennes qui écrase aussi le championnat. Je veux dire, il y a match maintenant, je veux dire. Alors, ils sont un peu en retrait, Rennes, je suis d'accord. C'est des bonnes équipes, c'est des concurrents directs. Je vois, par exemple, Lens revient très très fort, mais Lille, on ne sait pas trop. Monaco gagne à Nice, super, ils se relancent bien, mais Monaco, c'est aussi fluctuant. Et Brest, voilà, qui prend des cartons rouges en ce moment, je pense à Brassier, je pense à leur gardien hier. Voilà, la pression d'aller chercher un résultat, pourquoi pas une place européenne, la pression elle monte, on sait que c'est pas forcément facile à gérer pour ces clubs-là. Donc oui, pour moi, Rennes est dans le match, mais il y aura combat, c'est sûr.
D'accord, Pierre, vous êtes d'accord aussi que Rennes peut monter plus haut ou Rennes est au plafond pour l'instant en fonction de son calendrier, puisque Rennes a quand même joué le dernier, l'avant-dernier, l'antépénultième. Là.
Oui, mais je pense que Rennes a ses chances. Et devant, comme l'a dit Christophe, ils ne sont pas assurés de faire un parcours linéaire côté 3 points, match nul, il peut y avoir des défaites ici ou là. Les équipes sont un peu inconstantes. Hein. Ouais. On le voit bien avec Nice, par exemple, qui réussit à être l'équipe qui défend le mieux, qui marque très peu de buts. Elle s'est fait avoir par Monaco, qui par contre, à mon avis, est l'équipe qui va sûrement jouer le haut du tableau.
Ah ouais.
Il y a la question avec Brest quand même. On peut se poser la question avec Brest malgré tout, parce que c'est une équipe qui n'est pas programmée pour être ici. Le sprint final, c'est très particulier. S'ils sont dans cette position-là, ou en tout cas dans ces eaux-là pour l'Europe, Brest, il va falloir gérer quand même cette petite pression, même si ce n'était pas prévu. Rennes a quand même plus l'habitude de ça que Brest, par exemple, et il y a 6 points d'écart entre les deux équipes. C'est pas la mer à boire.
Voilà,
et
Brest, il y a un calendrier qui se complique, il faut dire quand même, pour le Stade Rennais, c'est vrai. Rennes, sur les 7 prochains matchs, ça va être 4 concurrents directs, je pense, au PSG, Lille, Marseille et Monaco. Voilà, c'est les 7 prochains matchs, il y aura 4 concurrents directs. On en saura plus, évidemment, au bout de ces 7 matchs.
C'est ça, d'autant que c'est un gros bloc et que l'équipe est un petit peu diminuée, on va en reparler. Venons-en au match d'hier, la compo de départ, absolument personne n'a été surpris. On a l'impression que dans l'esprit de Julien Stéphan, il y a une équipe type.
Oui, peut-être quand même sur Alidou Seydou. Moi, je l'aurais bien vu démarrer. Après, effectivement, il est arrivé assez récemment. Physiquement, il n'est peut-être pas encore totalement à 100%. Cela dit, on voit quand même que d'un niveau footballistique pur, enfin, en tout cas, voilà, l'énergie et ce qu'il dégage, je pense que c'est supérieur à Guéladoué. Guéladoué n'a pas fait un bon match hier, en
Christophe
plus.
Christophe va vous adorer.
C'est vrai que Guéladoué, hier, il a perdu un nombre inquiétant de ballons. Je crois que c'est 23 ballons perdus. C'est trop, même pour, c'est beaucoup trop. Voilà, je pense que sur la longueur, évidemment, a priori, Alidou Seydou va s'imposer à droite.
Bon, équipe type, je le disais, mais alors, dans cette équipe type, par exemple, on voit que Désiré Doué serait passé devant Blas, devant Guiri.
Oui, mais Guiri a joué un peu de malchance. Il n'a pas été très très performant lors de ses derniers matchs avec Rennes. Il a eu beaucoup d'occasions, il a peu marqué. Ensuite, il a eu le petit pépin. Il devait partir à la CAN, donc de toute façon, Rennes devait faire 100. Il se trouve qu'il s'est blessé. Il a bien joué contre Sochaux, donc en tout cas, il a marqué, il s'est montré. Donc il faudra voir sur la durée. C'est vrai que Doué, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et le sortir de l'équipe, pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. Mais on peut aussi s'attendre éventuellement à ce que ça, s'il n'est pas un peu plus efficace, ça rebascule bientôt.
Oui, c'est ça. En tout cas, Blas sur le banc, ça c'est récurrent maintenant depuis quelques semaines. Guiri, il a son équipe type. Est-ce qu'on peut dire, au vu du match qu'on va un peu analyser et qui a plusieurs phases, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire contre le cours du jeu ? J'ai eu le malheur d'écrire ça, moi, sur Twitter. Et on m'a dit, mais comment ça, contre le cours du jeu, Pierre ?
Oui, je voudrais juste faire un petit préalable sur le Havre, parce que les gens ne le savent pas tous. C'est que c'est le 4e derby breton. Le Havre, parce que vous avez 70 000 Bretons au Havre. Entre 1875 et 1940, vous avez des familles entières qui ont migré vers Le Havre. D'ailleurs, il suffit de regarder l'annuaire de Le Havre et de la banlieue. vous avez une palanquée de noms bretons.
Mais Pierre, il a passé du temps à regarder l'annuaire.
Oui, oui. Après New York et Paris, c'est la troisième terre de migration des Bretons. Planète entière.
Eh ben c'est bien, c'est bien d'en apprendre.
Voilà. Et donc, chaque fois que je vois un Rennes-Le Havre ou un Le Havre-Rennes, dans ma tête, c'est un derby.
D'accord. OK. Voilà. Bon. Et est-ce que ce derby a été gagné un peu contre le cours du jeu par...
C'était votre question initiale.
C'est ça, c'était ma question. Alors, oui, j'y reviens.
Il y a eu une entame et une fin absolument stressantes. Le premier quart d'heure et le dernier quart d'heure étaient très stressants parce que le premier, on se disait, c'est fichu, ils vont se faire, ils sont bousculés, dominés athlétiquement, etc. Le Havre est très organisé. À domicile, ça reste une équipe très difficile à prendre cette saison. Moi, je voyais ça très mal parti. Et puis, il y a eu une belle embellie et la fin du match, par contre,
c'est ça,
la préservation du résultat a été crispante.
Alors, est-ce que c'est contre le cours du jeu? Est-ce que finalement, c'est... Alors, je n'ai pas dit hold-up, surtout pas hold-up.
Non, pas hold-up, mais sur l'ensemble du match, le nul était plus... Voilà, plus juste, je pense, oui. Effectivement, le nul.
Ouais.
Après, il n'y a pas hold-up non plus.
On peut en débattre, mais moi j'ai trouvé quand même que Rennes a fait preuve d'expérience et quand même de relativement de calme, même si effectivement il y a eu beaucoup de ballons perdus et qu'à la fin c'était un petit peu hasardeux. Mais globalement, quand même, on a senti une équipe sûre de sa force face à au Havre qui doit encore apprendre et notamment apprendre à être décisif au bon moment.
C'est vrai qu'il n'y a pas eu trop de panique finalement. Non, Rennes est acculé sur la fin, mais on ne sent pas que ça part dans toutes les directions quand même.
Non, ça n'a pas été...
Ça fait peur quand même. Hein.
Le contrôle a été très bon au cœur de la deuxième mi-temps. Là, ils ont effectivement haussé le son sérieusement. Après, il y a un adversaire, c'est la fin du match, un adversaire joue son va-tout, il est mené au score. Bon, les scénarios de match comme ça, on en a vu d'autres, on en verra encore d'autres. C'est vrai que naturellement l'équipe on recule un peu voilà et c'est vrai que là oui c'était mais en même temps il n'y a pas eu des occasions énormissimes
ce qui est un peu inquiétant quand même, enfin le mot est peut-être encore fort, on va dire vous voyez toujours le verre à moitié vide, mais Rennes ne pose pas du tout le pied sur le ballon sur le dernier quart d'heure.
Ouais,
sort très mal le ballon. Là, il y a un vrai manque de maîtrise.
Ça, c'est récurrent, effectivement, sur ces derniers matchs. Rennes, qui par moments fait la différence, passe devant. Mais j'ai l'impression aussi qu'il y a une force de savoir bien défendre dans la surface. Je trouve que Arthur Théat et Warmed Omari ont cette qualité. Voilà, bizarrement, alors qu'on les a beaucoup critiqués.
C'est sympa, ça.
Non, mais je dis bizarrement parce que.
Bizarrement, dites donc, ils y arrivent.
Ils ont fait un peu peur, ces joueurs-là, sur la première partie de saison. Alors que là, ils assument le fait de allez-y, envoyer des ballons dans la surface. On va être là, on va défendre. Et ils l'ont fait plutôt bien. Et donc ça, c'est encourageant. Ils savent qu'ils peuvent peut-être défendre en étant aussi sur leurs 18 mètres. Pourquoi pas ?
Et quand on parle de la première mi-temps, je vais vous montrer une image. Ça dure 30 secondes. On est à la 39e minute de ce match. Regardez bien. Hop, la relance. Deuxième ballon, perdu. C'est récupéré. Deuxième ballon, perdu. On continue. Deuxième ballon, perdu. Mais ça, c'est... Derrière... On continue. Alors attention, là, on est au duel. C'est perdu.
En première mi-temps, c'est le problème. Ouais.
Regardez ça. Cette action, elle est incroyable. On continue, on centre. Toc, c'est à moitié perdu encore. Bon, après, il y a un tir qui ne va pas être cadré. Mais 30 secondes où sur tous les duels, les Havrais, pour certains nés en Bretagne, mais d'origine bretonne. Mais voilà, c'est assez incroyable ça.
C'est ce que les équipes ciblent par rapport aux défauts du Stade Rennais, c'est jouer direct, jouer les seconds ballons, mettre de l'impact. On sait qu'on n'a pas des Golgoth dans cette équipe. Même si Matuziwa est là pour ça,
le
fait. Et eux en ont beaucoup plus. Donc forcément jouer et les transitions. Et moi Arthur Théat pour moi en première mi-temps était très très en difficulté. C'est la transition, vous perdez haut le ballon parce qu'ils sont en contact, parce qu'ils gagnent les deuxième ballon, ils jouent en profondeur. Waouh, Arthur Théat c'était très compliqué. Arthur Théat a été très bon deuxième mi-temps quand il a fallu défendre dans sa surface. Donc voilà, le Stade Rennais a montré deux visages complètement différents. Mais là c'est surtout ce qu'il faut retenir, c'est la bonne réaction au retour de la deuxième mi-temps. Non mais c'est vrai.
Oui.
Parce que je suis désolé, c'est un petit miracle presque qui est 0-0 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ils vont le chercher ce but là qui fait la différence.
Sur ce que tu dis, Christophe, il y a avait un problème de positionnement global sur le côté gauche quand même. Alors certes, ouais, mais il était livré. Alors il était aussi en un contre un quasiment systématiquement. Alors mal placé Arthur Théâtre, mais clairement. Mais à chaque fois, Truffert était parti en campagne acheter les fraises. Donc forcément, c'était aussi un peu compliqué à la transition, quoi. Ouais. Le positionnement global de l'équipe et du bloc était pas bon. Et il y avait des boulevards à gauche. Et Le Havre a très bien travaillé la fin là-dessus justement avec.
Tout de suite. Alors qu'est-ce qui change en deuxième mi-temps? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, le Stade Rennais récupère plus de maîtrise, plus de calme?
Déjà, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la quantité d'efforts que ça demandait au Havre en première période de jouer au niveau où ils ont joué. On a senti que c'était très préparé quand même pour bloquer justement le côté gauche et la relation entre Truffert et Doué et qu'ils avaient effectivement identifié, il n'y a pas besoin d'être un génie pour ça, le point faible qui est entre l'espace entre Doué et Théâtre, entre Truffert et Théâtre, pardon. Ouais. Donc, mais ça demandait quand même beaucoup d'efforts parce qu'il faut beaucoup de projection, beaucoup de courses à intensité et c'était évident qu'à un moment ça allait être moins dur. Donc il faut aussi, je crois, rendre hommage au Havre qui est une équipe, comme l'avait dit Julien Stéphan et moi qui la vois de temps en temps, je l'ai vu contre Nice, j'ai vu contre Monaco, j'ai vu contre Paris. Même contre Paris, ils perdent, mais ils font un très bon match. C'est une équipe très organisée, très disciplinée, avec une très bonne stratégie, un très bon entraîneur. Donc voilà, il faut pas non plus oublier que c'est le troisième match de la semaine. Donc il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer la première mi-temps ratée.
Il y a un art de la faute, hein, parce que c'est compliqué de jouer des équipes un peu truqueuses comme ça. Lorsqu'elles, par exemple, vous prenez n'importe quel Havrais qui se fait dribbler par un adversaire, eh bien, soit vous avez derrière la faute de vexation, vous avez le maillotchage ou la cisaille. Et quand vous voyez ça, ça casse un petit peu le spectacle, bien sûr, mais évidemment, ça aide à résister. Et le Havre est de ces équipes-là.
Rennes marque, et on verra tout à l'heure le but de Bourigeaud, son 50e en Ligue 1. Est-ce que, comme moi, vous vous êtes dit que Salah avait mangé la feuille? On va revoir. À un moment, je dis, c'est pas possible. Ça fait 2 minutes simplement, Rennes a ouvert le score. Là, il y a un centre. Là, il rate la tête carrément. Hein. Il la touche pas. Derrière, pourtant, il se replace.
Après, il vient juste de rentrer en jeu aussi.
Il y a du monde devant lui. Bon, il y a du monde devant lui, mais bon, il doit faire mieux. Il doit faire mieux.
Mais là, il se relève. Il est devant son. Voilà, après.
Il y a du monde devant lui quand même.
Oui.
Regardez, là, le défenseur est juste en face de sa zone de frappe. Je pense que il l'a un peu perturbé. Mais bon.
C'est anecdotique, mais c'est vrai que Rennes aurait pu le.
Pas parce que ça aurait donné une fin de match beaucoup plus calme, sans doute.
Oui. Vous pensez que c'est un match référence pour l'état des. Ouais, vraiment référence. Pour l'état d'esprit, pour.
C'est ce qu'a dit Bourigeaud, en tout cas en zone mixte.
Ouais.
Mais c'est un peu la phrase qu'il a dite, match référence dans le combat, dans le côté état d'esprit batailleur. Oui, peut-être, référence, je sais pas. Il y a eu quelques autres matchs quand même où l'équipe a lutté un peu de cette manière-là, ouais. Où c'était sur un fil, un peu la limite, voilà, on s'en sort pas si mal. Après, oui, ça montre en tout cas que l'état d'esprit, il a changé quand même globalement. Et là, c'est clairement à mettre au crédit de Julien Stéphan, hein. Au-delà du beau jeu, c'est sûr. Ouais, ça fait pas rêver tous les week-ends, mais ça gagne. Et puis, il y a un vrai état d'esprit.
Ouais. Alors, on va écouter d'ailleurs Julien Stéphan qui dit aussi qu'il y a quelque chose qui a changé. Il est assez content de voir que ces joueurs ont été capables de passer du tout au rien dans le même match.
Les joueurs ont aussi fait preuve sur les 10 ou les 15 dernières minutes d'un esprit de corps, d'un esprit collectif défensif très prononcé. Et il faut vraiment les féliciter pour avoir pu switcher dans une même période, donc dans un laps de temps très court, d'un contrôle quasi total à une équipe qui a été capable de défendre corps et âme sa surface de réparation avec beaucoup de centre, beaucoup de présence athlétique de la part des Havrais, sans concéder de situations dangereuses. Cette équipe-là a réussi à allier parfois le beau jeu et souvent un esprit de corps remarquable sur l'ensemble de la rencontre.
Voilà, puis Fred Happ aurait pu nous dire aussi que le Havre était invaincu depuis le début de 2024. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est une équipe qui, justement, n'avait pas perdu.
Sauf en Coupe de France. Ils avaient perdu. Oui,
c'est vrai. Il ne faut pas minimiser non plus le succès rennais là-bas. Avec quand même, Christophe, vous me le signaliez avant l'émission, la chance a un peu tourné quand même. Les choses qui ne souriaient pas du tout sous Genesio, ça sourit un peu plus quand même maintenant avec
Stéphan. Il y a deux actions symboles qui montrent un peu ce côté. Ils ont provoqué cette chance, bien sûr, mais quand Théâtre met sa tête sur le poteau qui revient dans ses pieds, voilà, ça peut faire poteau intérieur. Au même poteau, c'est Bourigeaud qui rentre intérieur. Donc ça aussi, je sais qu'on n'aime pas dire c'est de la chance de Tarrêt, mais ils ont été là provoqués et ils ont ce petit facteur chance qui les aide bien en ce moment. Je voulais quand même rajouter, parce qu'on parle du Stade Rennais, c'est pas un hold-up, mais le meilleur joueur du Stade Rennais, ça a quand même été Mandanda, il faut que je le rappelle. À partir du moment où ton gardien de but est le meilleur joueur de ton équipe, c'est que tu as eu un petit peu souffert, un petit peu, je pense.
Voilà.
Et la chance aussi, c'est de marquer entre les jambes du gardien. Hein. Le but de Bourigeaud.
Je pense qu'il veut faire ça.
Ah.
Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi, Pierre.
Je ne sais pas. Peut-être que vous avez raison, mais le gardien a fait une petite faute. Il doit avoir l'un de ses genoux bas au sol pour éviter ce genre de bévue. Il ne l'a pas fait, c'est une erreur du gardien. Alors, est-ce qu'un attaquant tire volontairement pour marquer un but entre les jambes d'un gardien?
Ça arrive souvent.
La question reste ouverte. Ouais. Pour moi, elle est ouverte.
À cette distance, c'est compliqué. On dit souvent aux attaquants de tirer entre les jambes du défenseur quand ils sont au duel, pour justement masquer au gardien. Mais par contre, là, c'est compliqué.
D'accord.
Mais moi, ce que je souligne, c'est quand même le grand réalisme de Rennes depuis longtemps. Et du coup, ça, c'est autre chose que de la chance. À Lyon, clairement, ils marquent 3 buts sur leurs 3 premières occasions. Et même à Sochaux, ils marquent 6 buts. Mais en fait, quasiment à chaque fois qu'ils sont dangereux, ils marquent. Donc, il y a un côté tueur maintenant devant le but qui aussi manquait beaucoup à Rennes en début de saison et qui là s'exprime.
Et ça, c'est dû, faut le redire, à la qualité de l'effectif. Enfin, moi, on n'est pas aussi efficace si on a des pieds un peu carrés. Il y en a un joueur, Ibrahim Salah, qui rate un peu, qui pour moi n'a pas encore le niveau Ligue 1, mais les autres qui sont titulaires, je suis désolé, c'est des joueurs de haut niveau parce que ce groupe est de qualité et l'efficacité, ça prouve que tu as des joueurs de qualité.
Vous parliez des notes tout à l'heure, et notamment de la note de Mandanda, et on va découvrir les notes des Rennais après ce match. La moyenne est de 5,5 parce que ça n'a pas non plus été le match le plus éblouissant de l'histoire du Stade Rennais, avec effectivement Steve Mandanda qui dépasse la note de 7, mais derrière c'est pas mal aussi pour Omari, dont on a loué la bonne performance, et pour Santa Maria qui a réalisé un bon match au milieu
de
terrain.
Les 75 premières minutes de Santa Maria, elles sont d'un très haut niveau quand même. Après, il mange un peu la feuille sur la fin parce que je pense qu'il est carbo. Il était malade en plus deux jours avant. Donc là, il a fini très difficilement. Ça explique aussi peut-être aussi la perte de contrôle en partie. Mais la première partie du match de Santa Maria, c'est un modèle quand même. Pour moi, c'est le meilleur joueur sur la première partie.
La grande interrogation, c'était effectivement comment allait se comporter le milieu de terrain du Stade Rennais. Surtout, on va revoir la blessure de Lefay, parce qu'on a appris en début de semaine que ça allait être très très long. Ça, c'est cette blessure là qu'on n'a pas trop vue finalement à Sochaux, au bout d'une minute trente, il tombe, ça va être, il va dire 5-6 semaines.
Peut-être pour Marseille.
Peut-être pour Marseille. Marseille, c'est juste avant la trêve internationale de mars, donc on est autour du 20 mars, c'est ça ? Dans plus d'un mois. Et alors apparemment, il est plutôt du genre à récupérer vite de ses blessures, mais on ne va pas s'enflammer évidemment, ils ne prendront pas le risque avant la trêve internationale.
Je crois que l'objectif, c'est clairement qu'il soit apte, prêt à jouer au moins entrer en jeu contre Marseille.
D'accord, c'est l'objectif, donc c'est dans très très longtemps. Il va rater 8 mats, donc 7 maintenant, puisque... Et peut-être la Coupe de France, ça se prolonge.
Le problème, on l'a vu un peu au Havre, que ça va poser. Déjà, ça manque de rotation. Enfin, en tout cas, les rotations qualitatives ne sont pas énormes, déjà d'une. Et de deux, en termes de production de jeu, de créativité collective, de capacité à gagner des mètres avec le ballon, ce que faisait extrêmement bien Lefay. C'était le gros point fort de Lefay, c'est ça, la capacité à pouvoir faire gagner des mètres à l'équipe et à la sortir de situations sous pression. Là, évidemment, avec des profils comme Santa Maria et Mathieu Ziwa, on l'a moins. Ouais. Donc, ça perd en créativité, donc en option.
Ouais, alors, on a failli pas les voir, vous l'avez dit. Il y en avait un qui était malade. Ils ont tous un virus, ces temps-ci. À Rennes, j'ai vu sur Twitter un gars leur dire « Lavez-vous les mains !» et l'autre avait pris un coup sur le pied, le pied avait gonflé finalement. Ils ont joué. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation à tous les deux? On a bien compris ce que disait Guillaume. C'est vrai que c'est moins créatif que quand il y a Lefay. Pierre, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous?
Déjà, quand j'ai vu que Lefay était blessé, je me suis dit, oh là là, c'est un vrai coup dur pour le Stade, parce que c'est un créateur. Moi, je me souviens de matchs superbes à Lorient, de Lefay. Il commençait, depuis quelque temps, à retrouver le style de jeu qu'il avait à Lorient, où c'est un joueur qui va vers l'avant, qui trouve les ouvertures. Je me suis dit, là ça va être très dur à surmonter.
Et donc, quand vous voyez les deux gars, là? Santa Maria.
Santa Maria, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il a fait un gros match. Je sais que Christophe a des statistiques qui le disent. Et par contre, l'entente avec Mathieu Silva, c'est pas forcément encore.
Ça ressemble un peu.
C'est
un peu le problème.
C'est un peu le problème, quoi.
C'est un peu le problème. C'est moins complémentaire que Santa Maria le fait, évidemment. Après, Mathieu Silva, je pense qu'il va monter en puissance. On voit quand même la qualité de ce joueur-là. Là, je pense qu'il est encore en quête de repères. Pas encore extrêmement en grande confiance. Il rentre un peu dans un collectif qui marche bien. Donc, il est un peu à tâtons. Je pense qu'avec l'enchaînement des matchs et le volume athlétique de ce joueur, ça va être intéressant.
Oui, et puis il faut qu'il comprenne le système de jeu qui n'est pas tout à fait le même que celui auquel il était habitué à Reims. Christophe
Maria, par exemple, hier, évidemment, moi, je vais peut-être parler de ses stats, puisque sur les plans défensifs, il a des stats assez incroyables. 12 ballons récupérés, c'est le numéro 1 devant le Truffert. Derrière, il est numéro 2 avec 6 passes. Vous voyez, il a fait le double d'interceptions. Mais il a aussi des stats assez intéressantes. Il a dû prendre le jeu un peu plus à son compte et il a des passes, notamment des passes progressives, on appelle. Il a été numéro 1 de son équipe, à faire progresser son équipe, à la faire jouer vers l'avant, à casser les lignes vers l'avant. Ça, c'est très intéressant. Même en dribble, on se dit, ah, c'est Désiré Doué, c'est, je sais pas, Martin Terrier. Non, c'est lui qui a dribbler le plus et qui a réussi le plus de dribbles, bizarrement, alors que c'est pas son rôle. Donc je pense qu'il a un rôle maintenant que le fait, et puis là, un peu plus de se lâcher un peu plus vers l'avant, ça peut-être l'aide lui un peu le métronome de ce milieu de terrain plutôt que Mathieu Silva.
Parce que si c'était pas lui, parce que à un moment, quand on voit la répétition des matchs, est-ce que qui on peut mettre en créateur au milieu? C'est quoi Fred, les options que peut avoir Julien Stéphan? Parce que et on va pas tenir sur un bloc comme ça tout le temps. À un moment, on va falloir varier peut-être.
Oui, mais effectivement, ça risque d'être compliqué pour lui de varier beaucoup, parce que les options, en fait, il y en a très peu.
Il n'y a pas beaucoup de bancs.
Bourigeaud, ça fait longtemps qu'il ne joue plus dans l'axe et ça n'a pas trop marché lorsqu'il l'a fait, donc a priori, il n'est pas question de le recentrer. Est-ce que Désiré Doué peut jouer un tout petit peu plus reculé? Je ne sais
ça,
pas.
Qui ça, Désiré Doué?
Mais je ne pense pas, parce que je ne pense pas qu'il ait la rigueur et puis je suis désolé de le dire, mais la mentalité pour se faire mal, pour aller à la récupération et tout ça, je pense que c'est absolument pas sa tasse de thé. Blas, c'est un peu pareil. Donc effectivement. Enfin,
alors moi, j'avais une option.
On a posé la question à Julien Stéphan, clairement, sur ce que tu dis, Fred, sur les deux.
Pour faire jouer Blas ou Désiré Doué au milieu de terrain, à deux, c'est pas possible. Ils n'ont pas cet esprit de défendre comme Enzo le fait, à faire beaucoup de volume, à un gros volume de jeu. À trois, pourquoi pas? Mais ça oblige à changer un système qui marche bien en ce moment.
C'est ce qu'a sous-entendu Stéphan, d'ailleurs, le passage ponctuel. Probablement un 4-3-3 avec l'un de ces deux joueurs-là. Sachant que, évidemment, par rapport au profil, oui, il peut pas envisager d'enchaîner les matchs comme ça et de peut-être même les démarrer. Il faut que les contextes et les rapports de force soient favorables quand même à Rennes pour jouer comme ça.
Alors moi, j'avais une idée, mais elle est peut-être totalement farfelue. C'était de mettre Guéladoué au milieu.
C'est une autre option.
Mettre Seydou, évidemment, en latéral, et puis de mettre Guéladoué qui peut être assez créatif quand même.
Mais qui est pour moi, aujourd'hui, on l'a vu hier, alors que ça, il joue latéral, mais au cœur du jeu qui est tellement important, il met en danger, il peut mettre en danger son équipe sur des pertes de balles à des endroits où il faut évidemment pas perdre de balles. Il a peu cette... Cette surconfiance en lui qui fait qu'il se permet quelques gris-gris, il surjoue un peu, c'est interdit.
Vous parlez de Guéladoué, on a des images de Guéladoué, je dis ça pour la réalisation. C'est vrai que si Mandanda était le meilleur, Guéladoué, regardez là, donc il est en blanc évidemment, regardez les balles dans la profondeur, là, ils ne sont pas aidés les attaquants quand ils ont des ballons comme ça. Ça c'est en première mi-temps, en deuxième mi-temps, tiens je t'en remets une encore, mais va chercher.
23 ballons perdus, c'est le double de n'importe quel joueur rennais. Le plus mauvais derrière est 14. C'était son frère et Truffert, 13 ballons. Il a perdu beaucoup de ballons.
Alors là, c'est bien. Hop, mais je perds le ballon parce que je dribble.
Et donc, il met en danger son équipe.
Là, je renvoie où je peux. Voilà. Donc, il y en a eu beaucoup comme ça. C'était pas le match de Guéladoué. C'était pas le match des Doués en général.
Non, mais psychologiquement, je pense qu'il essaye de vouloir faire mieux que son frère. Faut pas oublier que Guéladoué, si au niveau de la notoriété, je parle de la notoriété, ils ont pas le même poste, pas le même football, on est d'accord. Mais quand on a beaucoup parlé de son frère, Désiré Doué, comme vraiment le joueur très attendu, les médias en ont fait des gorges chaudes. Et pendant ce temps-là, Guéla, on disait qu'il avait été un peu récupéré, accordé à l'effectif par la petite porte. Et je pense que ça, c'est resté. Et il surjoue. Il a tendance, on l'a bien vu sur le dribble, où il a trois adversaires à proximité. Il se perd dans... C'est fichu d'avance. Il se perd dans un, deux, trois dribbles, et puis voilà. Et il ne faut pas qu'il ait le syndrome de Désiré Doué, hein, parce que ça ne marchera pas.
Ils s'entendent bien, en tout cas. Les deux frères sont très bons. Il n'y a pas de jalousie, en tout cas. Alors là-dessus, on peut en être sûr. Mais c'est vrai que peut-être qu'inconsciemment, il essaye de remonter son niveau, puisque personne ne l'attendait là.
Oui, quand on recrute au mercato hivernal à votre poste, réconfortant.
C'est vrai qu'il faut peut-être aussi montrer ou surmontrer. Mandanda, meilleur joueur, 7,2 décisif. On va regarder ces deux arrêts. Puis derrière, il y a un calme qui est assez... alors même si les dégagements au pied... Moi, je ne sais pas, les relances courtes m'ont fait peur tout le match, mais je pense que tous les matchs, les relances courtes me font peur. Ouais. Mais encore plus quand il n'y a pas le fait pour venir les chercher. Et là, sur ce ballon-là, on se dit, il tire à côté, le gars. Mais non, Abdoulaye Traoré, il ne tire pas du tout à côté. C'est Mandanda qui se détend bien. On va le voir sur cet angle. Voilà, pour écarter le ballon. Il n'avait pas été décisif comme ça depuis longtemps.
Oui, il y a quelques matchs décisifs quand même. Vous êtes un peu dur avec...
Mais depuis longtemps.
Depuis longtemps, ouais. Il n'a pas fait un match récemment qui était... Non, il me semblait. Non, voilà, après, on n'est pas des... Voilà, on n'est pas l'avocat de Mandanda, mais après, il a fait un très bon match, effectivement. Globalement, ça reste un gardien fiable. Alors oui, il ne fait pas toujours les parades à tous les matchs. Il n'est pas toujours décisif.
Il n'est pas spectaculaire.
Il n'est pas spectaculaire non plus. Non. Il n'a plus son jump de 25 ans. On est tous d'accord avec ça. Après, ça reste un joueur quand même assez précieux, notamment dans le vestiaire, toujours. Toujours.
Précieux dans le vestiaire, tout le monde l'a dit, et dans ses analyses, qui sont rares, qui sont toujours calmes. Il est intéressant également aussi, en zone mixte, hier, après le match, le premier à se précipiter sur Mandanda, c'était Thomas Rasouli.
La trêve nous a fait beaucoup de bien. Après, on a eu une période où on a pu travailler avec le coach, avec un retour à un système qu'on connaissait aussi, mais avec une autre philosophie aussi de jeu. Donc ça a été pour nous très bénéfique. Et puis le fait de gagner les matchs engendre aussi de la confiance. Et voilà, on a enchaîné les bons résultats, on a gagné en capital confiance. Et puis aujourd'hui, on arrive à être plus solide, on arrive à tirer le meilleur de chacun. Et c'est bien pour la suite. Il faut garder cette humilité qu'on a depuis un petit moment. On vient de très loin, on revient de très loin.
Et comme c'est Thomas qui fait les images, on est en contre-plongée par rapport à Mandanda qui est un peu grand. En tout cas, on revient de loin, c'est ce qu'il dit, et on en est tous un petit peu convaincus. J'aurais juste, avant qu'on parle de Milan, parce que c'est quand même l'événement de la semaine, revenir sur Bourigeau. On va revoir son but. Heureusement qu'il met un but, Bourigeau.
Oui, c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas un match brillant. C'est typiquement le genre de joueur impossible à juger quand on met des notes et quand on juge les joueurs. Ça vaut 3, 4, et puis ça finit à 6 parce qu'il marque un but qui rapporte très gros.
Voilà.
Et quel jeu de tête de Terrier.
Oui, le jeu de tête. Alors là, déjà, Guéladoué, dont on n'a pas dit que du bien cet après-midi, ce soir, et ben il fait une bonne tête. C'est le bon truc à faire, là, la tête. Oui, oui. Et puis derrière, moi, la course de Bourigeau pour contourner son adversaire, mais c'est magnifique. Et puis le petit coup de chance, puisque la balle rentre. C'est son 50e but. Pas son 50e but.
Non, mais c'est un but de joueur. C'est un but de joueur intelligent. Je disais déjà qu'il y avait. Je rappelais déjà tout à l'heure qu'il y avait du talent dans cette équipe. C'est aussi un but de joueur intelligent. Je veux dire, Terrier, avant que Terrier fasse la tête, Bourigeau a déjà fait l'appel. Il sait que Terrier doit la mettre là et il la met là, au bon endroit.
C'est l'appel qui fait la passe, Christophe.
Exactement.
Ouais. Oui, parce que le grand mieux-être, on peut prendre le problème par tous les bouts, hein, le grand mieux-être du stade de ces derniers temps, hein, c'est le retour en forme de Terrier. Hein. On s'est aperçu qu'on avait un attaquant capable de jouer de la tête. On ne le savait pas avec Bakayoko.
avec Yudirim,
Kalimundo. Kalimundo, excusez-moi. Avec Kalimundo, on ne savait pas qu'on pouvait jouer de la tête quand on était avant-centre. Hein. Là, il a quand même marqué un but. Hein. C'est l'exception qui confirme la règle.
Il avait dit la recrue du mercato d'hiver en attaque.
Mais dès que
c'est
Terrier, dès que Martin Terrier est arrivé, évidemment, ça ouvre les espaces devant, ça joue intelligemment, c'est un joueur complet de la tête, du pied. Et c'est ça le mieux être pour moi du Stade Rennais. Il est là.
C'est vrai. Donc, et puis les regrets, c'est plus Le Havre. Vous vous souvenez que c'était le refrain permanent de Bruno Genesio, les regrets, c'est le Havre, on avait perdu 2 points.
Et les journalistes aussi, hein. on s'en amusait beaucoup.
On s'en amusait beaucoup. Là, maintenant, effectivement, Rennes a remis les pendules à l'heure. Alors donc, jeudi, le Stade Rennais va aller jouer à Milan, contre l'AC Milan, dans un match de barrage. Dont Rennes aurait pu se dispenser en jouant beaucoup mieux contre Villarreal.
On parlait de chance avec. Rappelez-vous de cette frappe de Enzo Lefebvre sur le coup franc qui revient et qui se le met en position, il n'a pas le droit de récupérer le ballon, qui empêche le but, l'égalisation d'Assignon qui ferait qu'ils auraient fini premier. Enfin bref, slash le facteur chance, il est là aussi malheureusement.
Vous auriez joué au Shakhtar, voilà, avec 15 Rennais qui auraient difficilement atteint le pays lointain. Voilà, là vous avez profité de 8. 9, 10 000 de Rennes.
Allez, non mais.
À San Siro, voilà, profitez.
On va quand même vivre quelque chose d'inédit. On va vivre quelque chose d'inédit. On n'a jamais vu autant de Rennais se déplacer à l'extérieur. Pierre, vous qui avez connu des matchs avec trois supporters qui partaient en Israël.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a jamais vu ça. Autant de supporters, c'est...
On va se remettre quelques images. Parce qu'on se dit, à chaque fois, on se dit, mais c'est incroyable. Là, c'était à Séville, Christophe. 2019, vous y êtes. Les gens aussi sont au bar, il fait bon. Et on se disait, mais quelle ambiance incroyable il y a eu.
Ça, déjà eu Jablonec, qui, pour moi, le tournant, c'était Jablonec.
Ah oui, Jablonec, mais ils étaient 300.
Oui, ils étaient 300, mais je suis très sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'il y a commencé à avoir ces vidéos et cette atmosphère de dingue.
C'est vrai, à Jablonec. Donc là, on a Séville, là, on a Arsenal. On était passé de 2700 à Séville à 5000 à Arsenal. Et regardez ce que ça fait, un cortège de 5000 personnes qui se balade dans les rues avec un état d'esprit incroyable. On va voir un autre plan, alors qui est encore plus invraisemblable. Ils sont 5000, là. Regardez. Imaginez à Milan, jeudi, ça va être deux fois ça. Parce qu'on est un peu là-dessus. Alors, le Stade Rennais ne veut pas communiquer sur 10 000.
Alors, les rues de Milan sont plus larges que les rues de Londres. C'est une très bonne nouvelle.
C'est vrai, mais ça va être quand même assez exceptionnel.
Oui, il y aura
de vivre
comme
ça.
Comme on dit, il y aura
8 000, dit le stade.
8 000 officiellement, puisque voilà, ils sont obligés d'échanger avec le club de Milan AC. Mais il y a, voilà, pour avoir des places hors parcage, beaucoup de supporters, beaucoup de supporters ont dû ne pas se faire tracer et donc prendre une identité italienne, on va dire, pour pouvoir acheter des places. Voilà. Et donc, au fait, ce nombre-là, on le connaît pas vraiment, mais il y a au moins 1 000. Voire 2 000 personnes qui ont fait acheté des billets comme ça et qui ont pu avoir des billets. Donc, on pense plutôt avoir 10 000 personnes. Ça peut être assez dingue.
C'est assez ahurissant. Comment est-ce qu'on explique ça, ce phénomène, cet engouement, alors que quand le tirage au sort est effectué, Rennes est dans les profondeurs, dans les limbes du classement? C'est quoi? C'est l'adversaire?
L'adversaire joue certainement. La destination est relativement simple à atteindre.
C'est vrai.
La ville est relativement intéressante, même si ce n'est pas la plus belle d'Italie, loin de là. Mais après, je pense que c'est devenu un peu l'ADN du club. C'est un peu le club ne joue que pour vivre ces moments-là, et les supporters aussi. Moi, je veux vraiment réinsister là-dessus. Pour moi, le basculement du destin du Stade Rennais, j'exagère pas, c'est ce déplacement. Avec ce but, ce match horrible, sauvé par un but de Clément Grenier, un tir de l'intérieur, poteau rentrant, mais qui donnait une chance de se qualifier contre Astana, et derrière tout s'enchaîne, et les déplacements, mais pour moi ça a été vraiment fondateur, et à ce moment-là, le public rennais était déjà un bon public, mais c'est vraiment devenu un public qui est passé encore un cran au-dessus.
Et puis les meilleures émotions, alors évidemment il y a la finale de 2019, mais les meilleures émotions autrement c'est évidemment les matchs de Coupe d'Europe, mais même les matchs on se rappelle pas, mais Astana, effectivement, après ça, c'était dingue. Séville, c'était dingue. Arsenal, c'était dingue. Enfin, moi, j'ai jamais vu d'ambiance comme ça au Roazhon Park que ces matchs de Coupe d'Europe. Ça, les supporters, ils le savent très bien. Et donc, s'ils veulent revivre ça, tout simplement.
La destination, le prestige de l'adversaire, ça joue quand même beaucoup. Ouais, Séville, c'était sympa aussi pour les supporters d'aller à Séville, de passer quelques jours là-bas. Londres, évidemment, Arsenal, c'est quand même mythique. Hein. Ça reste un club mythique. Et là, évidemment, Milan, tout le monde, ça parle à tout le monde, San Siro. Même ceux qui ne connaissent pas beaucoup le football. Voilà, il y a tout ça qui fait que...
Il n'y aurait pas eu 10 000 contre les Young Boys de Berne. Je sais que vous auriez aimé qu'on
tire à Berne. J'aime bien le pays, la destination est facile aussi, mais il y aurait eu évidemment beaucoup moins de monde. Et on sait qu'il va y avoir des familles. Enfin, nous, on en a déjà rencontré. Des gens qui partent en famille, pour lesquels c'est un voyage de quelques jours. Ça va être, voire un pèlerinage, ça va être assez extraordinaire. J'ai envie de vous demander quel est le pourcentage de chance que vous donnez au Stade Rennais aujourd'hui de se qualifier ou de sortir ce Milan AC qui est troisième de son championnat. Est-ce que vous avez réfléchi à ça, Christophe ?
Un pourcentage.
Allez.
Moi, je dirais 30% de chance de voir le Stade Rennais.
30%.
Ah oui, mais j'ai ouais.
D'accord. Très bien.
30%. Je sais que vous allez dire 2 ou 3%, vous, mais...
Ça vous semble beaucoup, c'est ça ?
Ben, moi, je dis 7%. Je sais pas pourquoi. Entre 5 et 10, 7. Ça me semble... Voilà. Qu'est-ce que vous dites, Pierre ?
Ah bah alors là, moi, je vais passer pour un affreux optimiste parce que j'étais parti sur 50-50. Alors,
voilà. Ah ouais, d'accord. Ok, c'est du 50-50, Pierre. Ok, très bien. Frédéric, vous qui connaissez bien le football mondial.
Moi, j'étais parti plutôt sur 30-35% de chance.
Ouais, d'accord, ok. Vous êtes à peu près d'accord. On attend notre spécialiste mercato.
Le spécialiste pronostic sur ce
spécialiste mercato. Vous avez parlé à Olivier Giroud, qu'est-ce qu'il vous a dit ?
J'en ai aucune idée sur le pourcentage. Par contre, ce que je suis sûr, c'est qu'il y aura un seul objectif, c'est d'essayer de rester à peu près en vie pour le match retour. Voilà, c'est déjà l'intérêt, c'est de ne pas prendre 4-0 à Milan pour pouvoir avoir une chance d'avoir un match incroyable ici avec des gens qui y croient, en fait, dans le stade et qui vont rendre le Roazhon Park totalement en furie.
Vous ne voulez pas donner un pourcentage, donc ?
J'en sais rien. Oui, 30% peut-être, ouais, okay, ouais, 40%.
Okay. 30, 50,
mais la dynamique de Rennes est quand même, voilà, ça c'est la nouveauté. C'est quand même, ils arrivent quand même dans une situation parfaite,
oui,
comme on n'aurait jamais imaginé au moment du tirage au sort.
C'est vrai, ça.
Donc,
c'est vrai.
Donc ça rehausse quand même leur chance.
C'est vrai. En même temps, c'est le Milan en face, avec de multiples titres nationaux, voire continentaux. Ils sont troisième. Ils ont battu Naples hier soir sur le score de 1-0. Alors, comme beaucoup de Rennais, j'ai regardé le match plutôt que Monaco-Nice. Hein. J'ai eu tort parce que Monaco-Nice était sans doute mieux. Qu'est-ce qu'on s'ennuie en regardant cette équipe-là ?
C'est une équipe de coups, le Milan. C'est une équipe de coups avec des individualités qui sont très très fortes. Alors, notamment à gauche, évidemment, vous avez vu l'action du but de Naples. Elle est symptomatique.
Léao, Théo Hernandez.
Théo Hernandez a fait une saison incroyable. Incroyable, il a atteint un niveau incroyable en défense centrale ou sur le côté, les deux postes. Il est même capable de marquer des buts en étant en défense centrale, c'est un truc de fou, Théo Hernandez. Donc lui, évidemment, Léao dans un bon jour, c'est injouable. Et puis Giroud, il est incroyable.
Et puis il y a Adli, et puis il y a Benacer qui faisait son retour et qui a été très bon. Hier, ils ont perdu leur capitaine, qui s'appelle Calabria. Blessure musculaire. Il a été remplacé par Florenzi, qui est aussi un bon joueur. Ça va être compliqué parce que c'est quand même une équipe qui joue vite et bien quand elle le veut.
En fait, vous rappelez, Milan, c'est une défaite sur les 12 derniers matchs. Et l'expérience, surtout, rappelle, demi-finale de Ligue des Champions l'année dernière. Donc là, c'est là où il y a un gouffre avec le Stade Rennais. Mais le Stade Rennais apprend quand même. Je trouve que. Pas toujours très bien quand on finit à chaque fois sur les deux dernières saisons deuxième de sa poule, sur les trois dernières saisons même deuxième de sa poule, c'est qu'on n'a pas su encore bien gérer ces phases de poule et donc il manque d'expérience. Mais autrement, qualitativement, il n'y a pas un gouffre pour moi. Si ça doit se jouer vraiment, c'est sur des moments clés de match avec des individualités qui sont certainement à certains postes plus forts du côté de Milan, mais sur le au vu du jeu, de la qualité du jeu, on n'est pas des années-lumière forcément de cette équipe.
Après, il y a juste une mauvaise nouvelle entre guillemets pour Rennes. On a contacté quelques personnes en Italie là pour préparer un sujet justement qu'on va sortir sur le Milan. Et contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est qu'ils prennent pas du tout à la légère ce match-là.
Oui,
et surtout parce que le Milan AC n'a jamais gagné la Ligue Europa, qu'ils savent qu'ils ne pourront pas disputer le titre à l'Inter, qu'ils sont éliminés en Coupe d'Italie. Et clairement, en interne, ça a été érigé comme une priorité de gagner la Ligue Europa cette saison.
Ah oui.
Donc,
restez à 35% quand même.
Donc, il ne faut pas trop penser, je pense, à ce que Milan prenne des Rennais pour des peintres.
Mais ouais. Parce que c'est tout pareil pour Rennes. Ils n'ont aucune chance de gagner le titre. Bon, la Coupe de France peut-être, mais donc.
Mais par contre,
l'objectif, c'est la Ligue Europa.
Par contre, il y a un derby contre Monza dimanche aussi, qu'ils auront peut-être en tête, même s'ils restent focus. Évidemment, sur le match de Rennes. Allez, on en vient donc au prono. Maintenant qu'on a votre pourcentage, on va passer au prono et regarder ce qui s'est passé après ce déplacement au Havre où une énorme majorité de nous autres avions donné match nul. Voilà. Alors là, ce qui a changé, donc Thomas Rassouli n'est plus tout seul en tête car David Thomas, qui avait misé sur une victoire rennaise, est revenu à sa hauteur. Christophe Benven, ce n'est pas votre année. Guillaume Lenné, petit à petit, grignote. C'est un peu le Lyonnais, c'est un peu le gun de notre championnat. Fred, il est bien installé dans le ventre mou. Pierre aussi. Hein. Vous êtes trop confiant.
Oui, je suis trop optimiste. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce que vous dites sur le match qui arrive? J'ai hâte de vous entendre. Sur le match de jeudi, AC Milan, Stade Rennais. Qui nous aurait dit ça il y a encore quelques années, que je demanderais un prono comme ça? Quand je parlais de Quevilly-Rennes, aujourd'hui, de dire AC Milan-Rennes, j'ai du mal même à le dire.
Vous êtes content, en fait, finalement.
Finalement, je suis content de voir 10 000 personnes.
2-1 pour Milan.
2-1 pour Milan, une victoire milanaise, Christophe. Pierre Lecomte.
Moi, j'ai dit 50-50, donc je vais la logique jusqu'au bout, un partout.
Très bien, ouais. Fred.
Je veux dire 1-0 pour Milan.
1-0 pour Milan. Guillaume.
2-0 pour Milan.
2-0 pour Milan, je donne le même score que vous, j'hésitais entre 2 et 3-0. Mais
ce qui est bien, c'est qu'il y a match.
Mais 2-0,
retour,
il y aurait match.
Tous les scores, voilà. Il y a match. Non, pour
évidemment,
on
est
d'accord.
Il y aurait match quand même. Ouais. Au match retour.
Il y aura match. Alors, sachez déjà que le match, c'est dans 10 jours. Ce sera des embouteillages épouvantables pour y aller. Ça sera en fin d'après-midi. Il n'y a toujours pas de métro, même s'il y a des nouvelles lignes de bus. Ça sera la galère. Prenez déjà votre journée entière si vous souhaitez aller au match. Mais d'ici là, très bon voyage à tous pour ceux qui vont nous retrouver à Milan. Ça sera un plaisir de vous y croiser. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci les garçons pour votre gentillesse et votre participation. On se retrouve vendredi prochain pour une émission particulière qu'on aura fait
depuis Milan.
Effectivement. D'ici là, portez-vous bien. Et bien sûr, allez Rennes!
D'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.